eh bien, nous nous retrouvons avec Marie-Lise Etzmanio et Raymond Richard donc, pour l'émission Tourne-Page à Dreux. Et aujourd'hui, il s'agit non pas d'un roman, mais d'une revue, la revue Progen, le numéro qui s'appelle « Monde cherche citoyen ».
Oui, alors tu m'as dit « tiens, on va faire une revue ». Bon, moi, les revues, déjà, je ne suis pas...
pas fan.
Du tout, du tout. Mais justement, je me suis dit « voilà, de toute façon, je plonge ». Alors, je ne sais pas si tu sais, parce que ce matin, très très tôt, genre 4h30, 5h15, j'ai appris qu'aujourd'hui, ce ne sera pas le jour de diffusion, j'imagine, mais c'est le jour de l'enregistrement, c'est le jour de la pauvreté.
La journée de la pauvreté, c'est
vrai. La journée de la pauvreté.
Il y a la journée de la faim, la journée de la pauvreté.
Alors, je me suis dit, on enregistre, oui, il y a beaucoup de choses, et voilà, ça reflète la réalité. Il y a des causes toutes importantes. Et j'ai en fait commencé par le début, parce que je fais ça pour les livres, hein, je ne regarde pas la fin avant. Puis après, j'ai dit, oh là là, c'est pas trop bien écrit. Puis après, j'ai feuilleté encore un peu. Puis après, j'ai dit, mais c'est passionnant ce qu'il dit. Et en fait, ce que j'ai aimé, des tonnes de choses. J'ai aimé la diversité des points de vue. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, vers la fin, c'est un peu dommage, mais c'est peut-être clore en beauté, un témoignage d'une femme qui a l'air jeune, qui, elle, met en pratique ses convictions profondes, mais avec, je trouve, beaucoup de douceur et dans sa façon d'être. Alors, j'ai envie de parler d'elle d'abord, non pas parce que c'est ma préférée, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres points de vue. Elle s'appelle Marguerite de Larrard et elle a décidé de s'installer dans les Pyrénées, et d'être autonome. Alors, ça marche parce qu'elle peut faire l'école à ses enfants, alors avec les inconvénients que ça pourrait avoir, je suppose, ou pas, ça dépend d'elle. Elle a décidé d'être en autarcie, mais pas que, c'est-à-dire qu'elle accueille des gens, soit pour des stages, soit pour... Et jamais elle n'est point levée, revancharde, prosélyte.
Voilà, elle n'est pas amère.
Non, 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 elle est juste... elle est douce. Enfin, je veux dire, elle écrit, je la connais, elle a 31 ans, oui, elle est jeune, évidemment. Elle écrit avec douceur. Et c'est peut-être ça qui m'a plu d'abord.
Et puis elle prend la distance par rapport à ce qu'elle fait, c'est ça aussi qui est intéressant.
Voilà. Et en même temps, elle raconte, il était une fois, moi, moi, mon compagnon, enfin, dis-moi parce que c'est elle qui parle, ça commence, je m'appelle Marguerite, j'ai 31 ans. Et elle a pas mal bourlingué, et puis elle a fait des expériences diverses. Pour se dire, mais finalement, qui est prêt à renoncer ? Oh, ben peut-être moi, finalement, mais à condition de... Elle a renoncé, c'est pareil, dans, je trouve, dans l'apaisement et l'harmonie. Ce n'est pas toujours le cas.
Hein. Ça, Oui, c'est-à-dire que parfois, on a ce genre d'expérience, mais on voudrait que tout le monde soit dans cette mouvance. Alors que là, elle donne son témoignage, et puis... Mais voilà, c'est un témoignage, ça n'est que ça, mais ça veut dire quand même, il y a des convictions qu'il est bon d'avoir et qu'il est bon aussi de mettre en œuvre plus ou moins.
Mais on peut les partager par l'exemple, et elle est formatrice en permaculture. Moi, j'ai découvert ça, alors je regarde la télévision très tard le soir, à l'heure où on voit des choses passionnantes. Comme on voit, alors l'inverse, je me rappelle avoir vu toute une émission très très tard un soir aussi sur des jeunes qui se lançaient dans leur conviction totale, on va s'isoler, on va pas avoir d'eau, pas avoir d'électricité parce que tout ça
faut
pas.
Et c'est l'enfer pour l'un d'entre eux.
Et c'est l'enfer pour la femme qui a son bébé qui se sent responsable et le mari qui est vraiment, alors je veux pas dire qu'il est illuminé, il est en tout cas, il n'avait pas ce sens pratique de dire je vais faire monter l'eau tout seul et ça va rien coûter et puis de pas creuser assez profond pour enterrer les bouts de tuyaux qui vont faire monter l'eau, et du coup, ben, y a toujours pas d'eau, et le bébé dans tout ça, et la maman dans tout ça, et on se nourrit avec quoi ? Et alors, les litres d'eau qu'on dépense pour laver ses couches, il y a aussi quelqu'un qui est heureux de dire qu'elle lave ses couches à la main. Moi, je veux bien, on fait attention à l'eau, si on veut que notre bébé les couches, quand on veut les laver, ça dépense des litres. Alors, ça, ce sont des contradictions que je n'ai pas retrouvées chez cette jeune femme, justement.
Donc voilà, dans cette tomaison de projet, il y a ce témoignage qui a retenu l'attention, parce que monde cherche citoyen, et les citoyens, c'est aussi dans la vie quotidienne. Je trouvais ça intéressant.
Et à propos de vie quotidienne, la maison aux trois étages, ou l'immeuble à trois étages, on ne sait pas trop, de Fernand Braudel, là encore, on s'est retrouvés. Hein. Alors je viens de dire justement que les petits papiers que j'ai faits, ça aurait pu être Raymond, parce qu'elle pourrait me dire, mais oui. Alors, soit c'est Raymond qui dit « Ah, ben Braudel et les trois étages, hein ?» Tu veux
alors
peut-être en
vrai,
parler, la
c'est
société
vrai que
économique.
J'ai trouvé que cette analyse de la société dans laquelle...
Économique.
Brodel ouais. voit ouais. les gens qui travaillent, qui se démènent pour cultiver, pour produire, pour travailler, et qui, dans certains cas, n'ont même pas le loisir de pouvoir réfléchir sur ce qu'ils font. Parce que là, vraiment, c'est la vie quotidienne qui les harcèle et qui fait qu'il faut semer, récolter, travailler, payer les impôts, etc. Et puis, lorsque on réalise tout ça, il peut se faire que, par chance ou parce que on a beaucoup travaillé, on peut justement se défaire de la vie quotidienne et réfléchir et arriver à ce second étage où à la fois on a des leviers économiques, mais en même temps on a une capacité de réflexion et puis on a une capacité de dire ces leviers économiques qui m'ont fait souffrir, peut-être faut-il les changer. Donc cet étage moyen, intermédiaire, où Brodel voit des gens qui réfléchissent, analysent,
observe les règles
du fonctionnement social et économique. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, parce que c'est en fait cette société que parfois on appelle la société civile, en fait tous les hommes qui ont pu prendre quelques distances par rapport à leur quotidien exigeant, et qui observent justement ces règles de démocratie, ces règles de transparence, qui paient leurs impôts, qui échangent entre eux. Voilà, et qui quelquefois sont un peu désespérés de voir que ça va mal.
Radio Grand Ciel.
Tourne-page à Dreux. Et puis au-dessus, le troisième étage concerne une population qui tient les leviers, qui, pour des raisons de politique, de finance, finalement, a pu s'extraire de l'étage intermédiaire. Et s'extraire aussi des règles, et qui fonctionne en utilisant la mondialisation. Alors, pour Brodel, il étudiait le XVIe, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, les échanges économiques au travers de l'Atlantique. Donc, ces gens
même,
qui ont
en fait.
Pu... Mais c'était la mondialisation de l'époque, et qui, disons, sortait des règles, n'applique.
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, il dit ça, que c'est
voilà.
cet étage-là, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
Et puis, eh bien, je détourne les lois financières pour aller dans le pays le moins disant où on paie les impôts, je détourne les lois de strict respect des droits de l'homme en faisant travailler les gens sans horaire et en tirant finalement tout à soi. Et des gens qui deviennent effrontés, qui oublient les autres. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que l'analyse que faisait Brodel, elle se transporte aujourd'hui. Et lorsqu'on évoque la mondialisation et le fait que les gens ne paient pas d'impôts, ou le fait que les gens s'affranchissent des règles du travail, ou le fait qu'on ne tient pas compte de l'objectif de l'économie qui est de faire vivre les hommes, l'économie faite pour les hommes, là, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de voir le similaire et de se dire que ça n'est pas la mondialisation qui est mauvaise. Ce sont les hommes qui la pratiquent.
C'est l'utilisation.
Et,
bah oui.
et de voir aussi quand même cette espérance d'une société civile intermédiaire qui ne baisse pas les bras et qui propose, se bat pour que, peu à peu, il y ait quand même des règles qui soient reconnues par
et
tous.
Et à propos de mondialisation mal utilisée, j'ai lu aussi une petite phrase. Les scandales sont un puissant accélérateur parce qu'ils obligent les responsables politiques à répondre. En fait, on peut dire aussi que ce sont des accélérateurs de processus. Oh, je me suis dit, mais on a tellement de scandales, ça va un petit peu me consoler. Et, parce que c'est vrai. En fait, on s'appesantit dans un premier temps sur les scandales, sur tout ce que ça implique en amont. Mais on peut se dire que
ça ouvre
ça
les
fait
yeux
bouger.
De tous.
Ça fait bouger quand même. Malheureusement, il faut ça. Il faut ça, c'est un peu triste.
Enfin, c'est vrai que c'est mais... joyeux de se dire
oui.
Le scandale accélérateur. Donc, cet homme politique qui prêche de payer ses impôts et qui ne les paie pas, ou qui oublie de les payer ou de les déclarer, ou qui va planquer son argent ailleurs pour justement éviter l'impôt, et qui se fait rattraper par le scandale, eh bien, c'est vrai que c'est parce qu'il se pose comme exemplaire qu'on découvre qu'il est mafieux. Bon, disons le mot. Et eh bien là, du coup, ça réveille. Et la société civile, là, elle peut s'engouffrer, agir et proposer de nouvelles règles politiques. Mais c'est vrai que ces progrès sont peu à peu. Mais en tout cas, ça donne un peu d'espoir. Quand
voilà.
Même. On peut faire quelque chose, on peut agir.
Et alors, à propos d'espoir, et si on réhabilitait les experts ? Là aussi, il y avait une toute petite phrase sur... Ben, y en a un qui a mal au pied. Alors il dit, mais moi, ma chaussure me fait mal. Et sa chaussure, point. Mais en fait, qui va pouvoir l'aider ? L'expert, tout simplement le cordonnier. Et il ne faut pas vivre dans un monde d'experts, mais il faut aussi, je pense, accepter qu'il y a des gens qui savent, et tout le monde ne dévoie pas ses connaissances. Tout le monde, il y en a
associer
aussi beaucoup.
Associer l'expertise à la responsabilité.
Voilà, ça existe aussi. Alors, il y a plein de choses comme ça, des choses évidentes, qui ne sautent plus tellement aux yeux. J'ai lu aussi des petites phrases sur le modèle démocratique occidental n'est pas forcément applicable partout. Dieu que c'est vrai.
Ça, c'est intéressant parce que souvent, oui. Nos médias proposent les règles démocratiques, comment sont faites les élections. Mais en fait, est-ce que notre modèle d'élection va dans certains pays d'Afrique où, de toute façon, antérieurement, on discutait pour obtenir un consensus. Ce n'était pas une élection, c'était un consensus qu'on obtenait par la discussion. Peut-être qu'aujourd'hui, l'élection, c'est trop mettre un bulletin dans l'urne et puis on aboutit à l'élection de tel homme politique que l'on n'aime pas du tout ou qui est un désastre pour le pays.
Oui.
Et c'est vrai que là, cette réflexion en disant nos choix ne sont peut-être pas transposables ailleurs, mais ce qui est transposable ailleurs et partout, c'est le respect de l'homme.
Et je pense que du coup, y a un point aussi qui m'avait frappé, ne pas réduire la Chine au totalitarisme et ne pas dire que tous les Américains ont voté Trump et que l'Amérique, c'est Trump. C'est vrai qu'on a un peu tendance, parce qu'on est loin, parce que on est tellement...
Mais
oui, et puis même, on se dit... Enfin, moi, j'ai quand même pas lu pas mal de choses, et même d'auteurs chinois. On finit par se faire une idée. On a un petit peu tendance à oublier que les choses ne sont jamais aussi simples. Quand on dit, par exemple, sur un plan beaucoup plus individuel, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Personne, hormis les deux, savent. C'est la même chose au niveau d'une nation. Une nation, je pense qu'elle est aussi constituée de... on a évidemment un président chinois qui est en train de plus faire des trucs invraisemblables, à peu près comme ce que fait Trump de l'autre côté, pour son image personnelle. Mais il y a aussi des tas d'autres gens qui font des tas d'autres choses. Et du coup, ils prennent tout le terrain, on ne voit plus rien.
Et qu'ils font avancer l'homme, et c'est
et
ça qui
est important.
Et
ils font avancer, mais oui.
Et alors, dans
mais
cette oui. revue, c'est ce que j'ai aimé, parce que finalement, le temps passe, et on voudrait vous inviter à lire cette
oui.
revue, ou à vous la procurer, ou à lire les articles sur Internet. Cette proposition d'une réflexion ouverte, on ne demande pas ici d'adhérer, mais de réfléchir sur des situations. Alors, il s'agit de la revue Projet. Le numéro s'appelle « Monde cherche citoyen ». C'était le numéro d'avril 2017, vous voyez. Mais il est passionnant, puisque aujourd'hui encore, lorsqu'on met en cause la mondialisation, il y a à voir qu'il y a mondialisation, certes, mais il y a surtout des hommes qui sont dans cette mondialisation et qui doivent imposer des règles pour que la mondialisation serve l'homme et non pas serve quelques-uns. La mondialisation, c'est inéluctable, mais elle peut être... pour l'homme et pour la vie, et non pas au profit de quelques-uns qui tirent les ficelles politiques, économiques, etc. Et on peut faire quelque chose, et c'est ça
et
qui est intéressant. Ce numéro nous donne des points de vue différents, et il nous dit, eh bien, le monde cherche des citoyens, ça veut dire des gens qui prennent leur place et qui sont responsables. Donc, bonne lecture. Allez voir ce numéro de Projet, Monde cherche citoyens, et... aux auditeurs, nous disons bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.